Une autre situation qui est assez fréquente dans l'ouverture des couples monogames, ça va être la question des inégalités dans les rencontres entre les membres du couple initial. On observe souvent des personnes qui ouvrent, et puis il y a une personne qui va avoir beaucoup accès à des nouvelles partenaires, et une personne qui va avoir moins accès, et ça fait quasiment systématiquement des tensions, de la jalousie, etc. C'est bien d'anticiper avant, pas y aller en se disant « Ah ben oui, mais si toi tu rencontres quelqu'un, moi je rencontre quelqu'un ». Et en fait, à partir du moment où on pense qu'il faut que ce soit égalitaire entre le nombre d'autres partenaires, c'est que déjà, il y a quelque chose qui est une conception où les partenaires vont être vont venir faire béquille un peu. Enfin, je sais pas comment le dire de manière moins négative, mais on va pas rencontrer une personne, on va chercher une relation, pour revenir au début de l'épisode, et une relation qui va nous permettre d'être à égalité avec une autre partenaire. Et donc là, en termes de possibilité et d'authenticité dans le lien, ça peut pêcher.
Exactement, il faut être aussi à l'aise sur le fait qu'on est deux personnes différentes au sein d'un duo et qu'on peut aussi avoir des temporalités différentes sans que ça veuille dire quelque chose sur notre valeur en tant que personne, sur notre valeur aussi dans le dating. Et on peut aussi avoir des envies différentes quant à notre ouverture, être ok pour ouvrir et chacun chacune rechercher des choses différentes avec des nouveaux partenaires. Mais il faut être aussi conscient que ça peut créer des tensions. Et il faut envisager en fait comment on gère ces tensions. Il peut très bien y avoir une personne du duo qui se sente très mal de pas réussir à avoir des dates et de créer de nouvelles relations, quelle que soit la nature, et de voir son ou sa partenaire y arriver avec beaucoup de facilité. Et ça peut créer une diminution de sa propre estime, se sentir un mauvais partenaire. Si on ressent de la jalousie, on peut encore descendre nous-mêmes notre propre estime en disant mais je suis jaloux alors qu'en fait c'était quelque chose que je voulais et je suis contente pour elle. Mais moi, je me sens nulle, ou je me sens pas au niveau, ou je me sens à la ramasse, peu importe. Et ce sont des questions qu'il faut, comme tu disais, anticiper parce que elles risquent de se poser parce qu'on est deux personnes différentes qui vont évoluer et faire nos rencontres à des rythmes différents.
Terminé sur l'ouverture des couples monogames, on a envie de parler un peu des licornes parce que on pouvait pas ne pas parler des licornes.
C'est votre animal fétiche un peu, j'ai l'impression. Et pourquoi la licorne est plus souvent pensée comme un fantasme disponible qu'une personne ?
Alors qu'est-ce qu'une licorne ? Déjà, commençons par ça.
La licorne, c'est cette personne qui va venir en relation avec les deux membres d'un couple monogame. Les licornes sont souvent des femmes bisexuelles qui rentrent dans un couple hétéro. Ça, c'est un peu le cliché. Et c'est un fantasme de couple hétéro, surtout. Et on voit beaucoup de personnes qui ouvrent leur couple et qui se disent « Oui, ça serait la configuration idéale. Ça serait de trouver une troisième personne pour venir compléter notre couple. » On l'a régulièrement sur Discord. Et on voudrait expliquer pourquoi c'est pas tout à fait ok comme pratique.
C'est surtout pas très ok comme façon de considérer la personne. Donc déjà, première chose, c'est que ça crée une fétichisation des femmes bi, qui sont vues par leur rôle potentiel par rapport au couple hétéro. Elles sont plus vues comme une personne, mais comme un fantasme, et comme un moyen d'arriver à un idéal qui est le fantasme du trouble. Et à contrario, ça invisibilise aussi beaucoup les hommes bisexuels qui sont pas chassés comme les femmes bisexuelles. Et à côté de ça, du coup, ça, comme on va rechercher une femme dans la bonne catégorie pour compléter notre duo, on enlève un petit peu d'agentivité à cette personne et on en vient dans une dynamique de prédation des personnes minorisées. Les personnes bisexuelles sont minorisées, elles appartiennent à la communauté LGBTQIA+, donc elles subissent des discriminations, de l'invisibilisation et potentiellement des violences aussi. Et ne les voir que par le prisme de leur sexualité, c'est hyper dégradant et ça les restreint juste à une fonction sexuelle de fantasme. Si vous avez envie d'un trouple, est-ce que c'est pour le fantasme ou est-ce que c'est un idéal ou si ça arrive, c'est merveilleux et si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ça, c'est une question aussi qu'il faut vous poser.
Il y a beaucoup de personnes qui, à nouveau, ne sont pas dans la rencontre de quelqu'un, mais dans la recherche active de la femme bisexuelle. J'ai même entendu « Je souhaite trouver femme bisexuelle comme cadeau d'anniversaire pour mon copain. » Always go now, because I'll be here for a short while. Don't you trust me?
I trust you, Lily.
more magical. As long as they roam the earth, evil can never harm the pure of heart.
Voilà. Il faut savoir qu'un trouple, si t'as A plus B plus C qui sont en relation ensemble, il y a une relation entre A et B, entre A et C, entre B et C et entre A, B et C. Et un trouple, c'est exactement ça. Il faut que la rencontre se fasse avec les deux personnes du duo initial et que la dynamique à trois fonctionne également. Ça fait beaucoup de choses à mettre en phase, beaucoup de paramètres qui doivent coïncider. Déjà rentrer en relation avec une seule personne, que ça fonctionne bien, qu'on ait envie des mêmes choses, au même rythme, c'est déjà beaucoup de choses à faire coïncider. Faire ça avec deux personnes qui sont déjà en plus en relation ensemble, ça rajoute beaucoup de paramètres. Faut pas oublier que c'est rare d'aligner toutes ces choses ensemble.
La licorne vient de là d'ailleurs, du côté rare et mythique.
Et légendaire.
I am darkness. Legend.
Là, quand on parle de chasse à la licorne, on a ce côté, un couple qui cherche une troisième personne et souvent une femme bisexuelle. Mais est-ce que cette personne bisexuelle est vraiment considérée quand on pose la question aux femmes qui sont chassées, entre guillemets, par ces couples-là? L'objectification arrive très souvent dans les ressentis.
La question de ne pas avoir une vraie place, d'être le fusible, parce que des fois, en fait, si ça se passe mal dans le couple, hop, c'est la licorne qui saute. Donc en termes de sécurité, c'est pas toujours ouf, et il y a aussi des couples qui mettent en place carrément un espèce de carcan où la licorne a pas le droit d'avoir d'autres partenaires, elle devient un peu le jeu sexuel. Quand même, toujours mettre des nuances, c'est que être un couple hétéro, mono, qui veut s'ouvrir, mais qui a surtout envie d'une expérience sexuelle, et ça peut être très ok de dire, nous on a envie de cette expérience sexuelle, de sexualité à trois, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a des licornes qui existent et qui ont très envie de rentrer dans une interaction sexuelle avec deux autres personnes. Ça peut exister. Ou alors, il y a toujours la possibilité de faire appel à des TDS, à des travailleuses ou travailleurs du sexe. Et si c'est un fantasme, on vit son fantasme avec une personne qu'on rémunère et à qui on ne va pas promettre monts et merveilles d'une relation idéale à trois, alors qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est surtout un peu de fun au lit. On ne juge pas la sexualité des gens, juste honnêteté et placé au bon endroit, quoi.
Mais alors, est-ce que c'est vraiment du polyamour, en fait?
Ça dépend, en fait. Est-ce que ça va être une interaction qui va être purement sexuelle et du one-shot? Ce qui est tout à fait OK, hein, à partir du moment où les choses sont présentées telles qu'elles sont réellement.
Mais c'est pas du polyamour, en fait.
Dans ma définition, sachant qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas du polyamour, ouais. Ça rentre dans la non-exclusivité,
voilà.
Dans la grande famille des relations non-exclusives. C'est quelque chose que là, on disait, si vous ne rencontrez personne avec qui avoir votre expérience purement sexuelle, sans implication émotionnelle, rien du tout, vous pouvez faire appel à un ou une TDS. Vous pouvez aussi aller en club libertin, par exemple, et voir si quelqu'un a envie de partager ça avec vous. Il y a des espaces pour explorer ça. Ce qui vraiment compte, et ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est présenter honnêtement la situation. Questionnez-vous sur vos intentions, sur ce que vous êtes OK de partager avec cette troisième personne, la place que vous lui faites réellement au sein de votre duo. Et est-ce que c'est quelque chose pour une expérience en one shot? Est-ce que c'est une relation humaine que vous voulez créer?
Ouais, de ne pas se dissimuler derrière des concepts comme le polyamour, par exemple.
Et de questionner aussi les biais qu'on va avoir, les enjeux, le pouvoir, les privilèges. Parce que notamment, un couple qui s'ouvre sur une relation romantico-sexuelle, par rapport à une troisième personne qui va arriver, le couple initial a déjà des privilèges de couple, d'ancienneté, ils se connaissent beaucoup, ils ont une complicité qui est forte. Alors que la nouvelle personne, il va falloir qu'elle rentre en relation avec chacun des deux membres du couple initial, plus avec la dynamique à trois. C'est quelque chose de compliqué qui prend là aussi du temps.
tu dis oui, c'est pas du polyamour. Et je suis d'accord, mais en fait, ça peut être une porte d'entrée pour certaines personnes dans le polyamour. C'est-à-dire que parfois, entrer dans le polyamour, c'est commencer avec des relations sexuelles. Et on l'a dit, chacun commence là où c'est le plus facile. Et pour certaines personnes, ça va être plus facile de commencer par ça. Et je pense qu'il y a beaucoup cette idée dans la communauté des bons polyamoureux, des mauvais polyamoureux. Si c'est que de la sexualité, c'est les mauvais polyamoureux. Et moi, j'essaie vraiment de faire gaffe à pas rentrer dans ce truc-là. Parce que tirer dans les pattes... au sein d'une commu, ça fait toujours du mal. Et donc, c'est pour ça que j'inclus les relations juste sexuelles dans le polyamour, parce que parfois, c'est juste une étape. Parfois, c'est ça en plus d'autres choses. Enfin, et pareil pour les licornes, on fait pas de slut-shaming sur les licornes. En fait, nous, on est dans une vision de la sexualité qui est positive. En fait, c'est OK, c'est cool d'avoir de la sexualité qu'on choisit de manière consentie. Dire que les licornes font le jeu de, je sais pas quoi, de l'hétéro, patriarcat ou je sais pas quoi, ou que c'est des salopes qui cherchent que du cul. Alors là, on va en double stigmate sur les femmes bisexuelles qui sont fétichisées, hypersexualisées. Pitié, faisons pas ça. Déjà, il peut y avoir des belles histoires, les envies peuvent être partagées, consenties, ça peut être chouette. Et encore une fois, on juge pas les gens à l'aune de leur sexualité, quelle qu'elle soit, en fait. Les déviants, déviantes avec nous.
Puis la chasse, c'est pas bien. On est contre la chasse.
On est contre la chasse. Rencontrer, qu'on a ouvert tous les couples, etc., comment on fait évoluer les relations?
Alors voilà, la question, c'est quoi une bonne séparation?
C'est pas quelque chose qu'on nous apprend, mais une séparation peut bien se passer.
Oui, et c'est là où je trouve que les relations plurielles sont un peu merveilleuses, encore une fois, c'est qu'on sort de cette dichotomie de on est ensemble, tout va bien, on se sépare, enfin rupture, ça c'est un peu le script hétéro-mono là. Rupture, hop, on se parle plus, et si même on se déteste un petit peu, c'est plus, ça rentre dans le jeu. J'ai rarement fait des ruptures, j'étais toujours très amie avec mes ex, et je comprenais pas, on me disait que c'était pas normal. Mais du coup, les relations plurielles, ça permet vraiment d'ouvrir un peu les horizons, et de dire que les relations peuvent évoluer, et qu'on n'est pas obligé de vivre des ruptures, mais il peut y avoir des séparations, elles peuvent être chouettes. Et il y a un concept découvert aussi dans les relations plurielles, qui est le concept de la désescalade, découpling en anglais.
On en a déjà parlé, vous voyez l'escalator relationnel qui est enseigné dans notre société, donc on se rencontre, on sort ensemble, on se fiance, on se marie, on achète une maison, un chien, on fait des enfants et on roule jusqu'au bout. Et même si on sort de ça, on a quand même l'habitude de faire évoluer nos relations avec plus ou moins d'implication. Désescalader, ça va être faire des marches arrière, plutôt que de rompre et de sortir complètement la personne de notre vie. On va en fait redescendre.
Comme si tu prenais l'escalator et hop, tu sautes la rambarde, voilà. Et tu passes de l'autre côté.
C'est dangereux, important.
Alors, attends, c'est une cascade réalisée par des professionnels. Voilà. Pour un couple une relation qui évolue, qui prend fin mais qui mute sur autre chose, c'est l'expérience dont tu parlais en début d'émission, Jules, où vous avez commencé à sortir ensemble et puis en fait, finalement, elle t'a dit que c'était pas possible pour elle et que vous avez évolué sur une belle amitié, c'est une sorte de désescalade. On désescalade la romance, la sexualité, et on revient sur un niveau de relation qui nous convient et qui nous rend heureux, heureuse. Ça peut être ne plus habiter ensemble, par exemple, si on vivait ensemble. Ça peut ne plus être notre partenaire sexuel. Ça... Là encore, la chance qu'on a dans ce mode de relation, c'est qu'on peut faire du sur-mesure On peut discuter et voir, décider ce qui nous convient réellement à nous, sans forcément suivre le script de bah, soit on est sur l'escalator relationnel, soit on se sépare et on disparaît de la vie l'un de l'autre. Là, on peut complètement faire autre chose.
Moi, pour avoir vécu dans ma vie perso une désescalade, ça n'a pas changé ni la dimension romantique, ni nos autres formes d'engagement. Par contre, moi, j'ai vécu la désescalade comme une réactualisation de mes attentes par rapport à ma non-partenaire. C'est-à-dire de juste... Mes attentes étaient trop importantes, trop de pression sur la relation, face à une personne qui n'était pas en mesure de répondre à ses attentes. Et plutôt qu'être en souffrance l'un l'autre, on a désescaladé et j'ai remis mes attentes à quelque chose qui est soutenable pour l'autre personne. Et en fait, ça a permis de et maintenir la relation, mais la maintenir genre longtemps. Ça peut être aussi ça, de pas forcément changer la nature de la relation, mais juste de se dire, c'est peut-être pas là où je veux mettre mes attentes, je veux les mettre un étage plus bas. Et ça devient soutenable, et du coup, ça permet de se préserver les uns les autres.
Ce qui fait que la fin d'une romance, c'est pas forcément la fin d'une relation. On peut faire évoluer les modalités de relation sans sortir la personne de notre vie. Parce que là, ce qui compte, c'est le lien à la personne, plus que la façon dont on relationne avec elle. C'est pas quelque chose qui est forcément simple. C'est quelque chose qui demande du temps, et une volonté commune, en fait, d'aller dans cette évolution.
On arrive à faire ce pas de côté quand on s'est pas trop blessé. Quand on n'est pas rentré dans un ressentiment très fort, quand on s'est pas trop fait mal. À partir du moment où je pense qu'on est vraiment sur... On a commencé à basculer vers une forme de haine de l'autre, la désescalade, elle devient difficile. Mais quand il y a encore beaucoup d'amour...
Oui, quand on n'est pas encore dans le ressentiment. Chouette. C'est chouette, mais ça demande du travail.
Oui, et les ruptures très très douloureuses, ça existe. Et c'est...
Oui.
C'est dur. Et les angoisses...